je vais vous présenter maintenant l'orateur du jour, Franck Michelin, spécialiste de l'histoire du Japon contemporain et des relations entre l'Europe et l'Asie. Franck Michelin est professeur à l'université Teikyo à Tokyo et chercheur associé à l'université de Paris-Sorbonne. Son livre, La guerre du Pacifique a commencé en Indochine, 1940-41, est le fruit d'un long travail de recherche et d'analyse d'archives françaises et japonaises. Il y explore le rôle du Japon dans le second conflit mondial et dans les origines de la guerre d'Indochine, une guerre qui allait changer le destin de la France, de ses anciennes colonies indochinoises et même de l'ensemble de la région Asie-Pacifique. Aujourd'hui, alors que le Japon a triomphalement élu Madame Sanae Takaichi, une ultra-conservatrice à la tête du gouvernement avec une majorité écrasante au Parlement, l'avenir des relations entre Tokyo et les pays asiatiques redevient incertain. Le 7 novembre, Madame Takaichi a estimé, devant le Parlement japonais, qu'une attaque armée de la Chine contre Taïwan pourrait relever, je la cite, « de la légitime défense collective » prévue par la loi japonaise de 2015 et permettre l'envoi de troupes japonaises, ajoutant qu'une crise dans le détroit de Taïwan, je cite, pourrait constituer une menace pour la survie du Japon, justifiant ainsi, selon elle, un recours à la force. Pékin a aussitôt dénoncé, je cite, cette grossière ingérence dans les affaires intérieures chinoises et une provocation au moment même où Pékin célébrait le 80e anniversaire de la victoire du peuple chinois contre la guerre d'agression japonaise. Il est donc opportun, alors que nous avons tous nos regards fixés sur le golfe arabo-persique, d'entendre l'éclairage historique que nous apporte aujourd'hui Franck Michelin sur l'Extrême-Orient. Monsieur le professeur, vous avez la parole.
Le président de l'Académie des sciences morales et politiques, monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le chancelier de l'Institut, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, c'est pour moi un immense privilège de m'adresser à vous aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous mes réflexions. Comme Monsieur le Président vient de le rappeler, le 7 novembre 2025, la première ministre japonaise, Takaichi Sanae, excusez-moi, mais les japonologues ont l'habitude de prononcer les noms japonais dans le sens patronyme non personnel, a répondu d'une manière un peu impulsive à une question du député d'opposition Okada Katsuya concernant la question taïwanaise, en invoquant le concept de, en japonais, Sonritsu Kiki Jitai, c'est-à-dire une menace existentielle à l'encontre du Japon, provoquant ainsi une véritable crise diplomatique avec son grand voisin. Que représente Taïwan au Japon aujourd'hui ? Pourquoi la question taïwanaise semble-t-elle tenir une place si importante dans le débat politique japonais contemporain et au-delà ? S'agit-il des relations économiques ? Les relations économiques du Japon avec Taïwan sont stables, contrairement à celle que le Japon entretient avec la République populaire de Chine, avec laquelle les tensions politiques sont récurrentes. Le commerce nippo-taïwanais est en valeur, évidemment, nettement inférieur à celui qui relie le Japon à la République populaire de Chine. Il est davantage spécialisé dans certains segments à forte valeur ajoutée, notamment les semi-conducteurs. Alors voici un graphique un petit peu ancien déjà, mais les ordres de valeur n'ont pas vraiment changé, où vous verrez les principaux partenaires commerciaux du Japon. La Chine y tient aujourd'hui et de loin la première place, et vous voyez que Taïwan arrive à peu près en cinquième place. C'est une place relativement importante, mais évidemment tout à fait inférieure, du moins en termes de volume, comparé à celui qui a lieu avec la République populaire de Chine. S'agit-il d'une proximité géographique ? Quand nous sommes en Europe, nous avons tendance à voir l'Asie d'une façon un peu resserrée. L'île de Yonaguni-jima, qui est le territoire japonais le plus proche de la côte taïwanaise, est située à 110 km. La proximité géographique est relative. En effet, l'archipel japonais proprement dit, c'est-à-dire en excluant l'archipel d'Okinawa qui est très très étendu, c'est-à-dire l'île de Kyushu, est située à 1100 km de la côte taïwanaise. Entre Tokyo et Taipei, c'est un peu moins de 4 heures de vol, ce qui correspond à peu près à la distance en avion entre Paris et Istanbul. Donc on ne peut pas vraiment parler de proximité géographique très importante, à part pour un chapelet de petites îles, et encore, comme je viens de le répéter, la distance est quand même de 110 km. Alors vous pouvez voir sur ces cartes, à gauche, c'est donc Taïwan avec les différentes îles, ici écrit Ryukyu Islands, le terme est un petit peu ancien, c'est l'ancien nom que l'on donnait au département d'Okinawa aujourd'hui, avec une distance à peu près de 170 km jusqu'à Ishigaki, qui est une île un petit peu plus importante. Vous avez à peu près 330 km entre la dernière île japonaise, là évidemment ce sont les Senkaku, dont on parle très souvent. Vous voyez d'ailleurs que sur cette carte, les personnes qui ont réalisé ces cartes ont bien pris garde d'inscrire les noms en japonais, les noms officiels en Chine populaire et à Taïwan, pour éviter tout incident, alors que l'archipel des Senkaku est sans aucun doute possible un territoire japonais. Et ensuite, Naha, qui est la capitale de l'île principale d'Okinawa, qui est à 410 km des Senkaku, plus 170 km jusqu'à Taipei. Ensuite, pour avoir une vue un petit peu plus large, vous verrez que Taïwan... Voilà, Taïwan est à peu près... est infiniment plus proche, évidemment, de la côte chinoise, de l'île principale des Philippines, l'île de Luzon, qu'elle ne l'est de l'archipel japonais proprement dit, où là, la distance est infiniment plus importante. Donc, il est assez difficile d'imaginer que le Japon serait sous une menace d'ordre direct de la part de la flotte japonaise. Généralement, les incidents ont lieu quand même assez loin des territoires japonais les habituels, à part, comme je vous l'ai dit, quelques îles assez peu peuplées. Alors, quid des relations culturelles ? Après sa défaite face au Parti communiste chinois en 1949 et son exil à Taïwan, le Kuomintang a dû se rapprocher de son ancien ennemi, le Japon. Parce que le Kuomintang était en guerre avec le Japon de manière continuelle de 1937 à 1945. Le fait que Taïwan ait été de 1895 à 1945 une colonie japonaise a constitué un atout, puisqu'une très grande partie de la population taïwanaise parlait japonais couramment. Une bonne partie d'ailleurs des élites taïwanaises d'avant l'arrivée du Kuomintang avaient été formées dans les universités japonaises, et l'une d'entre elles qui était d'ailleurs l'Université nationale de Taipei, qui est une université japonaise à l'origine. Vu l'isolement qui a frappé Taïwan et devant la menace d'un débarquement des forces de la Chine populaire, les relations avec le Japon sont devenues absolument cruciales, et les relations culturelles qui existaient déjà n'ont fait que finalement se renforcer. Taïwan a l'image au Japon d'un pays nippophile. C'est quelque chose qu'on entend absolument partout, notamment quand on le compare aux deux Corées. La Corée du Nord, la Corée du Sud et Taïwan ont évidemment été des colonies japonaises. Or, les Taïwanais seraient nippophiles, voire pro-japonais, alors que les Coréens seraient anti-japonais. Alors, cette légende n'est pas tout à fait infondée, mais évidemment, elle peut être expliquée par différents facteurs. Le premier, c'est la nécessité de maintenir des liens avec le Japon face à la menace que, évidemment, fait peser alors la République populaire de Chine. Suite à l'arrivée de Chiang Kai-shek à Taïwan, la guerre de Corée a commencé. Donc nous sommes vraiment au moment où la guerre froide est dans un moment critique. Et ces liens avec le Japon sont évidemment très importants. En 1971, le siège de l'ONU, qui était occupé par la République de Chine, passe à la République populaire de Chine, suivi à peu près un an après par le voyage de Nixon à Pékin, suivi par celui du Premier ministre japonais, Tanaka Kakuei, qui, ces visites qui ont ouvert la voie vers l'établissement de relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine, et évidemment le Japon et la Chine, et la Chine populaire. Donc évidemment, cet isolement de Taïwan a rendu cette relation un peu particulière avec le Japon d'autant plus importante. Une autre chose, surtout quand on compare avec la Corée, c'est le fait que la colonisation japonaise n'a pas causé de blessure à une identité nationale qui était encore en devenir. La Corée avait une très longue tradition. D'ailleurs, les Coréens se targuent toujours d'avoir une histoire plus ancienne que celle du Japon. Aussi le fait que les Japonais ont beaucoup appris de la Corée au cours de leur histoire, alors que Taïwan était une marge de l'Empire chinois à partir du XVIIe siècle. Et donc, la colonisation japonaise n'a pas vraiment causé de blessure dans la construction de l'État-nation, ce qui rendait les relations un peu plus faciles. Alors, un peu d'histoire. Excusez-moi, mais c'est évidemment ma nature. Les relations entre le Japon et Taïwan commencent au XVe siècle, alors que Taïwan n'appartient pas encore à l'Empire chinois. L'île de Taïwan sert de base aux pirates japonais, Wako, qui sont des espèces de vikings des mers de Chine, qui essaiment entre le Japon, la Corée, les côtes chinoises, voire même jusqu'en Asie du Sud-Est. Celui qui fait entrer l'île dans l'orbite chinoise, c'est Koxinga, de son nom néerlandais. C'est les Néerlandais qui lui ont donné ce nom-là, qui est une déformation du nom chinois, Chenggong, qui fait de Taïwan le bastion, le dernier bastion de résistance face aux Mandchous. Fait intéressant, il est de mère japonaise et il est né au Japon. Ce qui montre les relations assez importantes qui existaient à l'époque dans cette mer de Chine, qui était, comme l'a dit le professeur Gipoulou, une espèce de Méditerranée asiatique. Cette relation est tardive, puisque les véritables relations commencent en fait en 1872, après ce petit épisode des pirates. En 1872, le Japon annexe le royaume des Ryukyu, l'actuel Okinawa, qui était un royaume un royaume tributaire de la Chine. En fait, c'est un royaume qui était sous double suzeraineté chinoise et japonaise. En 1874, à la suite du meurtre par des aborigènes taïwanais de pêcheurs de l'île de Miyakojima, le Japon lance sa première expédition à destination de l'île. En fait, le Japon cherche à faire pression sur Pékin pour que la Chine reconnaisse l'annexion des Ryukyu, qui était un royaume tributaire de la Chine. Veuillez excuser cette faute d'orthographe. L'annexion japonaise arrive 25 ans à peu près après cette date, en 1895, au traité de Shimonoseki, le Japon obtient l'île de Taïwan et l'archipel des Pescadores. Il rencontre un obstacle inattendu, un événement qui est relativement peu connu, même à Taïwan, un groupe de Han, c'est-à-dire de Chinois ethniques, disons, proclame la République de Taïwan. C'est la première république de l'histoire chinoise. L'armée japonaise met un terme à cette première expérience chinoise, mais après quelques semaines d'expédition, pendant lesquelles beaucoup de soldats japonais, d'ailleurs, meurent de maladies tropicales, de malaria et d'autres choses. Le Japon transforme Taïwan en ce qu'on peut appeler la première colonie, même si le Japon n'utilise pas le terme colonie officiellement. Il appelle territoire externe, Gaichi. C'est une partie du territoire japonais sous gouvernement militaire. Les populations locales ont un statut particulier, celui de sujet de l'Empire. Le Japon veut faire de Taïwan une colonie modèle. Le Japon veut des colonies, puisque tous les pays du monde à l'époque veulent des colonies. Pour le Japon, devenir un pays colonisateur est une marche vers la civilisation sur le modèle occidental. Le modèle, ce sont les Pays-Bas, avec les Indes orientales néerlandaises, l'actuelle Indonésie. Le Japon est un colonisateur sérieux, très sérieux. Il établit une structure administrative solide, construit des hôpitaux, des écoles, une infrastructure urbaine, ferroviaire, routière, portuaire, etc. L'université de Taipei est l'une des 9 universités impériales japonaises. Taïwan devient un centre de production de produits tropicaux, thé, sucre, camphre, banane, tabac, ananas, mangue. La population de Taïwan à cette époque est en fait double. Il y a les Han qui ont commencé à émigrer depuis la côte méridionale de la Chine au XVIe siècle. Ils arrivent dans une île qui finalement était assez peu protégée, assez peu organisée par l'Empire Qing au XVIIe siècle, qui ne s'intéressait pas beaucoup à l'outre-mer. Ces populations Han, après l'épisode de cette république de Taïwan, sont plutôt satisfaites de l'administration japonaise, qui est plus efficace et moins corrompue que l'administration chinoise de l'époque. En revanche, le désir de contrôle tatillon des Japonais provoque de fortes réactions de la part des populations aborigènes. Quand je dis aborigènes, c'est les populations qui étaient là avant l'arrivée des Han dans l'île, et qui sont d'ailleurs les ancêtres de nos Polynésiens, dont la culture orale est plus fragile et qui ont plus peur de perdre leur identité à cause de cette assimilation japonaise. Plusieurs révoltes ont lieu, dont celle de Moucha en 1930 de la part du peuple sidique, qui fait quelques centaines de morts. Dans les années 30, le Japon, qui veut faire des colonies de véritables participants à la construction d'un empire qui s'apprête à entrer en guerre, lance une politique d'assimilation forcée. Adoption de patronymes japonais, obligation de fréquenter les sanctuaires shinto pour y rendre un culte à l'empereur, utilisation obligatoire de la langue japonaise. En 1945, le Japon doit renoncer à son empire, dont Taïwan était évidemment la première perle. Et pour la première fois, Taïwan devient une partie de la République de Chine. L'administration du Kuomintang fait face à une forte opposition, car encore une fois, les Japonais avaient les qualités de leurs défauts. Ils étaient assez raides, assez brutaux, mais relativement peu corrompus, très sérieux, alors qu'avec le Kuomintang, c'était finalement plus difficile. Chiang Kai-shek se réfugie finalement à Taïwan en 1949. Il doit réprimer une résistance très très forte de la population parmi les Han, cette fois-ci, qui fait à peu près 40 000 morts, et il doit procéder à 30 000 arrestations. On appelle souvent cette répression la terreur blanche à Taïwan, qui est resté un tabou pendant très très longtemps. L'île est alors coupée en deux. Je ne parle plus ici des aborigènes qui vivent surtout dans les montagnes et qui sont à cette époque une toute petite partie de la population. Il y a les Chinois qui sont venus avec Chiang Kai-shek en 1949, ou un peu plus tôt, qui se considèrent comme l'élite de la Chine. Donc ils viennent avec leurs députés, toute la plupart des œuvres d'art, alors le musée national de Taipei est beaucoup plus beau que celui de Pékin, et ils parlent mandarin. En revanche, les Chinois qui habitaient à Taïwan avant l'arrivée de Chiang Kai-shek ne parlent pas mandarin, ils parlent des dialectes méridionaux, dont le Minnan. Ils étaient habitués à la domination japonaise, aux usages de l'administration japonaise, et ils parlent japonais, évidemment. Cette coupure s'est pérennisée, plus ou moins jusqu'à aujourd'hui, et recoupe en partie les divisions politiques. Les populations qui étaient là avant l'arrivée de Chiang Kai-shek étant plus enclines à imaginer une indépendance de Taïwan. Au Japon, Taïwan a l'image d'une colonisation heureuse. L'image de Taïwan évoque celle d'une colonisation heureuse. Les Taïwanais seraient la preuve, je parle bien au conditionnel, que le Japon d'avant 1945 n'avait pas toujours fait fausse route. Dans une région est-asiatique où le Japon peine à gagner en légitimité, où les heurts diplomatiques territoriaux et de mémoire sont légion, tenir un discours protecteur à l'égard de l'ancienne colonie peut paraître justifié. Revenons donc maintenant à cet incident concernant ce concept de menace existentielle. Il s'agit d'une loi adoptée d'abord en 2003, à l'époque de M. Koizumi le père, puis révisée en 2015, à l'époque de M. Abe, qui porte le titre, hein, c'est une traduction, « Loi relative à la paix et à l'indépendance de notre pays », donc c'est-à-dire du Japon, « ainsi qu'à la sécurité de la nation et de ses citoyens en cas d'attaque armée ou de situation de crise existentielle ». C'est ce « ou » qui va poser problème. Pour la première fois depuis 1945, ou depuis l'adoption de la Constitution d'après-guerre. L'usage de la force n'est plus strictement limité à l'autodéfense en cas d'agression armée. D'ailleurs, c'est pour cela que les forces armées japonaises portent le nom de forces d'autodéfense. Mais s'applique également à la préparation d'attaques contre le Japon, donc à la préparation, et à la menace contre ses intérêts vitaux. Cette loi a été passée à la Diète à l'initiative de feu Abe Shinzo. Elle est d'autant plus importante aux yeux de Madame Takaichi qu'elle voue un véritable culte à son ancien mentor. Il y a ici une contradiction. La contradiction est la suivante. Le Japon ne reconnaît qu'une seule Chine depuis 1972. Le 3 décembre, Madame Takaichi, devant l'accusation de révisionnisme diplomatique qui pointait, réaffirme pourtant la reconnaissance d'une seule Chine, c'est-à-dire que Taïwan serait bel et bien une partie du territoire chinois. Cette crise est provoquée, en fait, lors de cette première déclaration de Madame Takaichi, par inadvertance, un peu provoquée par un député qui pensait que peut-être Madame Takaichi allait aller un peu au-delà de ce qu'elle devait ou pouvait dire. Madame Takaichi a parlé d'un danger contre les intérêts vitaux du Japon si la flotte chinoise se rapprochait des eaux territoriales japonaises. Au départ, c'était une bévue, ces propos ayant été prononcés en pleine séance parlementaire, ce qui était tout à fait unique. Mais cela a eu un effet déconcertant. Les sondages ont dénoté une réaction positive de la part de l'opinion. Ceci n'était pas attendu. Il faut dire qu'il y a au Japon aujourd'hui un rejet assez profond de la Chine, ou de la République populaire de Chine pour être plus exact. Cela s'est affirmé ces dernières années. Évidemment, les différentes crises causées par l'arrivée de bateaux de garde-côtes chinois près des îles Senkaku. Plus récemment, et peut-être d'une façon plus grave, l'afflux croissant de touristes qui ne respectent pas toujours les usages locaux et qui surtout sont aujourd'hui beaucoup plus riches que les Japonais. Ce qui provoque en fait une espèce d'inversion de l'image que les Japonais avaient d'eux-mêmes vis-à-vis de la Chine pendant très longtemps, puisque c'était eux qui étaient normalement les riches dans la région. Il y a aussi un lien plus ou moins fondé entre la hausse des loyers et des achats de biens immobiliers par des ressortissants chinois, nourrissant une bulle immobilière au moment où les salaires sont presque bloqués. Le Japon, face à l'essor chinois, est dans une situation très, très difficile. Il est numériquement et stratégiquement inférieur dans la plupart des domaines. Certaines exceptions technologiques lui permettent de maintenir une dissuasion locale limitée, mais elles ne suffisent pas à faire du Japon une puissance régionale autonome. En d'autres termes, il s'agit d'une supériorité qualitative ciblée, mais qui ne compense pas la supériorité quantitative et stratégique de la Chine. Le Japon est un pays dont la défense est fragile, face notamment à la montée irrésistible des forces armées chinoises. La protection américaine semble de moins en moins certaine. Malgré la hausse des budgets de défense, les forces d'autodéfense souffrent de handicaps rédhibitoires. Personnel âgé et sans expérience du feu, l'expérience du feu est interdite, population récalcitrante vis-à-vis de l'utilisation de la force, vieillissement accéléré de la population et déclin économique depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Le Japon est un peu un tigre de papier. Un peu comme l'Allemagne, le Japon est sur le papier, constitue une puissance militaire de premier ordre, qui serait à peu près au 7e rang mondial aujourd'hui et dont le budget de défense aurait dépassé celui de la France. Or, l'article 9 de la Constitution et le souvenir de la guerre du Pacifique constituent des freins puissants. Les forces d'autodéfense ne sont pas censées ouvrir le feu et ne sont acceptées par la population qu'en raison de leur rôle de super-pompiers, hein, c'est une expression personnelle, lors des catastrophes naturelles, puisqu'ils jouent un rôle très très important, le Japon étant frappé par des crises naturelles de façon régulière. S'agit-il d'un coup de bluff ? J'ai tendance un peu à le penser. D'un point de vue diplomatique et militaire, les objectifs affichés par Madame Takaichi ressemblent à un coup de bluff, car le Japon n'a guère les moyens de ses ambitions aujourd'hui. Comme souvent en matière de relations étrangères, ce sont ici les considérations intérieures qui jouent le rôle le plus important. Pour conclure, le Japon contemporain conjugue nostalgie impériale, dépenses militaires et dépendances stratégiques, tout en faisant de la question de Taïwan un levier pour légitimer ses choix internes. Plus que jamais, l'hégémonie de la Chine est appelée à continuer de projeter son ombre sur le Japon. Je vous remercie de votre attention.
Merci infiniment. C'est passionnant.